first sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt.
20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de l'antenne. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio G. Vous êtes en notre compagnie sur le 101.5 FM pour parler de sport jusqu'à 21h. On est ensemble avec toute l'équipe de Génération Sport, avec donc à mes côtés, vous en avez l'habitude, Faustin et Cédric. Faustin à ma gauche, salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très bien.
Ça a joué ce week-end?
Non.
Ah, c'est les vacances?
C'est les vacances,
c'est vrai.
Oui.
Tu profites un peu?
Ouais, j'étais à Lisbonne là.
Ah oui.
Ouais, j'étais parti jeudi, je suis revenu hier.
Hier, ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as vu du sport à Lisbonne ou pas du tout?
Non, pas tant que ça.
Non. C'est une très belle ville en tout cas.
Ouais. Bon, j'ai vu toutes les boutiques avec la milieu de CR7.
Ah oui, évidemment.
Il n'y en a pas une ou il n'y en a pas.
Cédric, ça va?
Eh ben écoute, nickel, de retour cette semaine.
Eh oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut savoir peut-être pourquoi
Non.
Non, on ne saura pas.
Non, c'est que Claudio, j'avais des choses à faire pour qu'il y ait plus de temps.
Ça marche. Et t'es de retour?
Ouais.
T'es de retour, pareil, bon week-end. T'étais pas à Lisbonne, toi?
Non, j'étais pas à Lisbonne, j'étais à Angers.
Ouais, c'est cool. Très bien. Alors donc, au programme de cette émission, il y a pas mal de choses à dire, évidemment sur le sport local, avec tout ce qui se passe au niveau des clubs angevins, parce que c'est évidemment les fins de saison, il y a pas mal de résultats qui vont arriver, il y en a qui savent un peu ce qui va se passer sur cette fin de saison, il y a des enjeux qui sont parfois peut-être pas encore trop définis, mais en tout cas voilà, va y avoir pas mal de choses à dire, notamment Faustin, tu auras pas mal de choses à dire sur le basket, avec ce fil rouge qu'on aura tout au long de l'émission, avec ce match de l'UFAM qui vient de commencer, je crois, c'est ça.
Ouais.
Et donc voilà, c'est le match, le derby contre la Roche-Vendée, et c'est un match hyper important pour les playoffs. Voilà, si elles gagnent, tout simplement, elles iront en playoff. Si elles perdent, il va falloir sortir les calculettes et calculer ce qu'il reste d'avoir quelques égalités au classement. Donc ça va être hyper intéressant. Alors donc malheureusement, on ne pourra pas suivre le match dans son intégralité puisqu'on devra rendre l'antenne à 21h, mais en tout cas voilà, on vous fera suivre un petit peu l'évolution du score. Et puis évidemment, demain, cette finale européenne de Cholet Basket à la Meyret, la finale retour après avoir perdu le match aller de 4 points. Donc voilà, on reviendra sur cette finale très attendue entre Cholet et Vlo-Clavec. Ensuite, en international, on parlera de football, un gros point football avec un point sur la Ligue 1, mais aussi les championnats étrangers, et puis sur les Coupes d'Europe avec les mauvais résultats des clubs français. On reviendra un petit peu là-dessus. Évidemment, Faustin nous fera un point sur les playoffs NBA. Je vous parlerai un petit peu de points. Je vous ferai un point, pardon, sur le handball, et puis un petit point aussi sur l'athlétisme avec le retour inattendu d'un ancien champion du monde français. J'en dis pas plus. On va commencer sans plus tarder avec le sport local. Nouvelle défaite pour le SCO d'Angers, peut-être l'une des plus encourageantes de les 24 de la saison. Parmi les 24 de la saison, cette fois, c'était le Paris Saint-Germain qui se présentait au stade Raymond Coppa avec un statut de futur champion de France. Mbappé et Messi étaient bien titulaires en attaque, et malgré une première grosse occasion de Nian, les deux offensifs parisiens vont rapidement faire parler leur talent avec l'ouverture du score du champion du monde français à la 9e minute, à la suite d'une très belle passe de l'Argentin. Mbappé va même doubler la mise un quart d'heure plus tard en contre-attaque, garantissant un match tranquille à son équipe. Pour autant, les Angevins vont continuer d'attaquer, de montrer de belles choses, en peinant par contre à la finition. En fin de partie, le centre de Yann Valéry arrive sur la tête d'Abdallah Sima, qui met en retrait sur Sadat Youb, buteur sur cette action. Donc, les joueurs d'Alexandre Dujeu vont continuer de pousser dans le temps additionnel, mais vont finir par s'incliner 2-1 contre le leader de Ligue 1. Alors, même si le SCO est condamné à la Ligue 2, il ne l'est toujours pas officiellement. Il faudra potentiellement attendre la semaine prochaine pour officialiser mathématiquement la descente avec un déplacement du côté de Rennes. La semaine prochaine, je pense qu'on fera du coup un point sur toutes ces années du SCO en Ligue 1. Parler un peu des conséquences de cette descente, de comment ça s'est passé un petit peu, puisqu'il y a pas mal eu d'articles qui sont sortis, notamment que ce soit à Ouest France ou à l'équipe, sur tout ce qui s'est passé au SCO de mauvais, on va dire, sur les dernières saisons, les derniers mois. Et du coup, voilà, peut-être qu'on prendra le temps vraiment de revenir là-dessus la semaine prochaine. C'est vrai que tu veux rajouter un mot?
Non, après, est-ce que c'est réellement le SCO qui a mieux joué, ou c'est pas Paris finalement qui a bien levé le pied quand même en deuxième mi-temps?
Ouais.
Ils sont quand même fait peur, parce que quand on voit les stats, c'est quand même affolant de se dire que le niveau stats, le SCO était largement au-dessus.
Ouais, clairement. Mais pour avoir vu le match, je dis pas que le SCO mérite de gagner, mais enfin Paris gagne sans voilà.
Non, oui, c'est trottinant. Ils ont fait une mi-temps, puis après c'était.
On est
limite déjà en vacances presque.
Ouais, c'est un peu ça. On sentait que c'est une équipe qui était clairement à court d'idées, qui avait pas tellement de motivation, alors que les Angevins ont peut-être eu envie de réaliser un bel exploit devant leur public. Donc voilà, on reparlera un petit peu du SCO, on fera un plus gros bilan sur les dernières années pour le SCO. On enchaîne avec le basket. On l'a dit, il y a pas mal de choses à dire sur le basket et les clubs du Maine-et-Loire. Faustin, je propose qu'on commence par une équipe qui est déjà assurée d'aller en play-off, c'est le AB, qui je crois a gagné cette semaine.
Ouais, ils ont fait deux matchs. C'était le premier était mardi dernier. On n'avait pas eu le temps de dire le score à la fin du match, et c'est malheureusement une défaite contre Chalon-Reims de seulement un petit point sur la dernière possession adverse, donc 75-74. Ils ont ensuite gagné contre Denain, ce qui leur assure ainsi le maintien en Pro B.
C'est une évidemment bonne nouvelle, parce qu'ils pouvaient être maintenus et à la fois ils pouvaient à la fois descendre et jouer les playoffs malgré tout.
Il me semble que s'ils descendaient, ils pouvaient plus jouer les playoffs.
Donc ils perdaient leur droit à la place aux playoffs. Donc là c'est officiel.
Ils sont en playoffs, voilà. Ils sont maintenus l'année prochaine en Pro B.
Ce qui n'était pas non plus un gros risque, enfin ce n'est pas probable, on va dire, qu'ils soient relégables sur la fin de saison. On va passer à l'UFAB. Déjà pour donner les scores, actuellement il y a 11-10 pour Roche-Vendée, 12-10. Il y a un lancer franc.
14-15 moi.
14-15, je dois avoir énormément de retard alors, parce que je regarde du coup en direct sur mon écran. Bref, Faustin, l'UFAB, il s'est passé pas mal de choses, notamment mercredi. On avait parlé un peu de ce match, je crois, la semaine dernière, et incroyable ce qui s'est passé. Tu vas nous raconter.
Car une victoire très importante dans la course au play-off en cette fin de saison contre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières, 92-72, notamment grâce à l'immense performance de Alexis Peterson, qui nous sort un match à 39 points, 8 rebonds et 11 passes D, presque un triple-double, c'est ce qu'on voit d'habitude en NBA chez les hommes, et surtout un 50 d'évaluation. C'est du jamais vu. C'est le record,
c'est
tout
record
simplement.
Absolu,
donc l'évaluation, pour ceux qui savent pas, ça comprend en gros, ça prend toutes les stats, donc même les ballons perdus, les pourcentages au shoot, et ça fait un calcul pour tomber là-dessus. Donc on peut même être dans le négatif si on fait un mauvais match,
c'est
ce genre de choses.
Et du coup, performance historique d'Alex Patterson, qui a porté un peu à elle toute seule cette équipe d'Angers sur un match hyper important. Et du coup, pour rappel, elle va être dans un stage, elle va participer à un stage pour potentiellement intégrer une équipe de WNBA cet été. Donc, ça va être hyper intéressant de voir son parcours, et on espère qu'elle va rester à Angers. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. Non. Évidemment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une énorme performance, et donc comme tu l'as dit, ce soir, match hyper important.
Bah oui, c'est le derby contre Roche-Vendée, bien sûr. En cas de victoire, les Angevines s'assurent leur place en play-off. En cas de défaite, cependant, il faudra espérer une défaite soit de Tarbes, soit de Flammes Carolo. Il me semble que Tarbes joue contre Villeneuve-d'Ascq et Flamme Carolo joue contre Toulouse, il me semble. Donc une victoire assez facile pour Flamme Carolo et plus compliquée du côté de Tarbes. Voilà. Sinon, une victoire nous ferait extrêmement plaisir à domicile en plus pour un derby.
Bien sûr, bah oui. Et puis, en fait, il y a tellement d'enjeux.
Ouais, c'est ça. C'est...
Bah, tout simplement que Jambon est rempli. Hein. Mm. C'est guichet fermé le match. Et donc, bah, pour donner un peu l'évolution du score, 25 à 17 pour Angers. Donc, apparemment, la stat en ligne du site de la LFB et donc en avance sur le direct de YouTube de la Fédé. Bref, en tout cas voilà, on va suivre évidemment l'évolution du score tout au long de cette émission et puis voilà, on reviendra vers vous si jamais potentiellement si à 21h il y a une grande avance, on pourra évidemment parler de qualification entérinée pour les playoffs. On rappelle qu'elles peuvent terminer tout autant à la cinquième place que neuf ou dix, donc ça va être c'est clairement une soirée hyper importante pour l'avenir de l'UFAB. Cholet Basket qui est aussi demain un gros rendez-vous, voilà, c'est la fin de saison donc il y a pas mal de gros rendez-vous. Cholet Basket qui est à deux doigts, on va dire plutôt à quatre points d'un trophée européen.
Et oui, tu dis à 4 points parce qu'ils ont joué donc mercredi dernier le match aller de la finale de Coupe d'Europe de FIBA contre Wroclawek, le club polonais. Et malheureusement, la finale commence par une défaite, 80 à 77. Donc les Choletais auront 4 petits points à rattraper dès demain à 20h à la Meilleraie pour potentiellement finir champion d'Europe à domicile. Ce serait super beau pour ce retour en Europe du côté de Cholet.
Ce serait complètement incroyable. Ouais. Franchement, même si c'est que la C4, ça reste quelque chose de complètement fou. Pareil, guichet fermé, évidemment une ambiance de folie comme on peut en avoir.
J'imagine, oui.
Ça va être complètement dingue. Pareil pour la diffusion, par contre, on avait essayé de regarder.
La dernière fois, c'était en direct sur YouTube, il me semble.
Et c'était sur Télé Cholet, je crois.
Ah ouais.
Donc Télé Cholet qui est dispo à la fois sur, chers auditeurs, renseignez-vous un peu sur Internet, mais la chaîne est dispo sur Internet et en plus il y a notamment c'est dispo sur la télé tout simplement. J'ai pas les noms des chaînes en tête, mais voilà, enfin les numéros de chaîne. Mais en tout cas voilà, ça va être hyper intéressant donc pour Cholet Basket de suivre cette finale européenne. Il y a tellement de bons moments, on va dire, à vivre pour tout le peuple choletais.
Ouais, c'est clair. C'est une super saison qui pourrait être très bien commencer à bien conclure, on va dire, avec cette victoire en Europe.
Et pourquoi pas, je sais pas, une demi-finale de play-off.
Ah, pourquoi pas.
En Battle Elite, ça pourrait être...
Ils sont quatrième. On peut voir grand.
Ça va être intéressant. Toi, est-ce que tu as vu le match du coup à l'aller?
Non, j'ai pas pu voir le match. J'ai vu le résumé. J'ai regardé le résumé. Ouais. J'ai regardé un peu les stats. Ce que j'ai vu, c'est en gros le deuxième carton. C'était le troisième carton, je crois. On s'est fait un peu gifler.
Ok.
Ils sont passés pas mal devant. On a limité la case, je vais dire, dans le quatrième carton en revenant pas mal.
Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qu'il va falloir suivre d'un côté comme de l'autre?
Wroclawek qui a le numéro 1, j'ai pas du tout le nom en tête, il a mis 20 points.
Donc, okay.
C'était pas mal. Et nous, on a eu Doris Diallo, je crois, c'est ça son nom, il a mis 18 points.
Okay.
Et TJ Campbell, lui, il a mis 15 points, un truc comme ça.
Donc, on en parlait. C'était un retour qui allait faire du bien à Cholet et ça a été le cas. Donc voilà, on rappelle, quelle heure la finale?
C'est 20h.
20h. Très bien. Eh bien, écoutez, déjà, pour ceux peut-être qui nous écoutent et qui vont y aller, écoutez, cassez-vous la voix, j'ai envie de vous dire. Cassez-vous la voix et portez Cholet vers la victoire finale. En tout cas, on va passer maintenant à quatre autres infos sport local, avec pour commencer le SCO Handball, qui n'a pas joué ce week-end, mais qui prépare d'ores et déjà la saison prochaine en Pro League. Les dirigeants s'activent en ce moment pour construire l'effectif de 2023-2024. Et le club a d'ailleurs officialisé la venue pour deux saisons de l'arrière-droit croate Philippe Vucevic, troisième meilleur buteur de National 1 Elite avec Vernouillet cette année. Une autre équipe angevine est actuellement leader de son championnat et elle est plutôt coutumière de fête, puisque les loups d'Angers sont dans une forme olympique. L'épongiste reste sur 7 victoires de suite et ont récemment officialisé leur participation au play-off de Pro A grâce à un succès sur Jura Morez. Les joueurs de David Pillard défendront donc en demi-finale leur double titre de champion de France contre un adversaire dont l'identité n'est pas encore connue pour l'instant. Ce sera peut-être le club maugeois de la Romagne, encore en course pour ces fameux play-offs. Et dans les Mauges, on retrouve un autre club qui, quant à lui, lutte pour sa survie avec le SO Cholet en national. Les Choletais n'ont toujours pas retrouvé le chemin de la victoire depuis la mi-mars et se rapprochent dangereusement de la zone rouge avec un nouveau nul 0-0 ce vendredi contre Villefranche. À 4 points du premier relégable, ils pourront se donner de l'air vendredi soir s'ils battent Sedan. Enfin, on termine par le SCO Rugby qui a remporté le match aller des 32e de finale de Fédéral 3 contre Plouzané, 16-11. Les Angevins joueront leur match retour la semaine prochaine en Bretagne avec peut-être au bout un ticket pour les 16e. On en a évidemment longtemps parlé. On suit toujours le score du Lufab contre Roche-Vendée actuellement. 25-21, si je ne dis pas de bêtises, pour Angers. On va se retrouver donc juste après la pause musicale et on va pouvoir évoquer pas mal de sujets de foot, de basket, de hand, mais aussi un peu d'athlétisme. On se retrouve juste après SCH et son titre LIF.
On arrive, ça sent le kérosène, il me faut un sac plein de zeille. Mais des cagoules en néoprène, je suis pas dans le même den. Je me souviens pas des théorèmes, et je suis de moins en moins sûr. Tel serment une vodka chouette tonique, c'est le son des rafles, au RMI en Mercedes. J'ai les codes, j'ai la rhétorique, plus je vieillis, plus je suis méthodique. Et ceux qu'on a aimés donneront mon adresse. Mes pensées dans le kaléidoscope, quand le silence fait trop de bruit. Tu sais qu'on peut tout tarifer dans le sud, souvent calibré au sud. Je fais de la musique les jours de pluie, et je pisse de l'urine positive au stup. Je veux la Hulk, je veux la Federer, et pas crever comme ceux qui fédèrent. On se pointe en flot paramilitaire, point serré, cœur en pierre, et je revois mourir mon père à chaque fois que je ferme les paupières. Mais ta daronne à l'abri, penalty dans l'agression, son qui met la pression. Je suis pas dans les soirées mondaines, et j'aime les choses simples. Ma mère s'en branle du Urus, elle veut la Citroën. Et viens nous mettre des gifles contre les rentes en plomb. J'ai grandi là où ça chatte, j'ai grandi là où ça charque. Parle pas trop devant les gens, y'a que des espions. Je suis ni du côté des mauvais, ni du côté des bons. Bétonneur, assassin, pyromane. À la fin, on ressort rarement du tribunal. J'ai pas perdu mes codes, fais Bélec, si on s'équipe. Je désactive le lift, mon petit, tu sors de l'œuf. Tu sais comment on fait un son, tu sais comment on coupe une. Une clé de sol, une casserole, et ça fait du crack. Sacoche remplie d'olive, tracker sous les bolides. Ça tend qu'on arrache, tu mets des bâtons dans les roulis. Arme sous la marque, et tu sens venir la menace. Bref, à 20 ans, jouer au craps à Vegas. Stop, ferme la pharmacie, un sac, je fais le tour de la classe. Sans pare-balles, on fait le tour de la casse. Les yeux rivés sur la recette, eux seuls les recèlent. Des certifis ont le seum, mais je vais te faire aimer le sel. La part du ciel et la part de l'ombre. Quand j'étais rien, elle avait pas mon time. Je la cala pas, elle dit que je le melon. Cognon, j'ai investi. Pourquoi tu regardes la paye avec des yeux révulsés?
J'ai pas fait grand chose au lit.
J'ai pas fait grand chose au lit. C'est dehors que ça me dit le S. Quand tu veux, on les fait glisser. Je m'en bats les reins en vrai. J'avais des carences en tout. Là, j'ai un carrosse qui vaut le prix d'un pasta ou d'un appartement en tout. Les femmes, ça entort, ça rend fou. Les sous, ça rend faux, ça rend fou. Mais laisse, on rend flou. Bétonneur, assassin, pyromane. À la fin, on ressort rarement du tribunal. J'ai pas perdu mes codes, fais Bélec, si on s'équipe. Je désactive le lift, mon petit, tu sors de l'œuf. Tu sais comment on fait un son, tu sais comment on coupe une. Une clé de sol, une casserole, et ça fait du crack. Sacoche remplie d'olive, tracker sous les bolides. 7 ans qu'on arrache, tu mets des bâtons dans les roulis. Bétonneur, assassin, pyromane. À la fin, on ressort rarement du tribunal. J'ai pas perdu mes codes, fais Bélec, si on s'équipe. Je désactive le lift, mon petit, tu sors de l'œuf. Tu sais comment on fait un son, tu sais comment on coupe une. Une clé de sol, une casserole, et ça fait du crack. Sacoche remplie d'olive, tracker sous les bolides. 7 ans qu'on arrache, tu mets des bâtons dans les roulis.
SCH et son titre LIF sur Radio G. Vous êtes toujours en compagnie de Génération Sport. On est sur le 101.5 FM ou bien sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. On est ravis de vous retrouver donc pour les petites 40 minutes qui nous restent jusqu'à la fin de l'émission. On l'a dit un petit peu plus tôt, on suit en fil rouge. C'est un petit peu voilà ce fil rouge de l'émission du jour. Ce match entre l'UFAB et Roche-Vendée, un match hyper important pour les playoffs des basketteuses angevines qui actuellement mènent 31-25. Donc voilà, on va essayer de vous faire suivre ça minute par minute. Alors peut-être pas minute par minute, mais en tout cas voilà, très rapidement. Alors c'est bientôt d'ailleurs la fin du premier quart-temps, et on en parlait donc pendant la pause musicale. On a déjà une Alexis Patterson qui est sur des très bonnes bases avec 12 points, notamment 3 passes D et surtout 16 d'évaluation. Donc c'est quand même assez incroyable pour la joueuse angevine. Bref, on va du coup, avant de parler de football, c'est vrai que tu avais une info qu'on peut donner à l'antenne, qui a été officialisée par le club des Ducs d'Angers. Je te laisse la dire.
On va mettre un peu de fraîcheur dans ce match de fou. Du coup, bonne nouvelle, c'est que le coach actuel des Ducs, Jason O'Leary, du coup, reste une année de plus.
Donc voilà. C'était hyper.
C'est important, voilà. Au moins, c'est bouclé largement avant le début de la saison prochaine. On sait que voilà, il va y avoir des petits changements dans le club. On sait pas encore de quel ordre, mais bon, on se doute qu'il y a sûrement une baisse niveau des finances du club, étant donné qu'il y a un partenaire qui s'enlève à cause de licenciement. Enfin, pas de licenciement, mais de
d'affaires judiciaires.
Oui, non, mais enfin de redressement judiciaire de la société ou de fermeture, enfin je sais plus exactement. Okay. En tout cas, voilà, donc ça fait forcément une malle d'argent qui va être un peu dur à retrouver, en tout cas.
Ouais.
Voilà, au même niveau, à la même hauteur. Mais en tout cas, voilà, au moins c'est d'avoir son entraîneur déjà de sécuriser.
Ouais, bien sûr.
Là, on sait que par exemple actuellement, il y a les mondiaux des U18 qu'on lui a Angers. On se doute qu'il y a forcément des scouts du club qui vont peut-être repérer des petites perles à droite à gauche. Ça peut voilà faire venir des joueurs en formation dans notre club. Donc enfin c'est au moins c'est bien voilà, ils peuvent préparer je pense plus sereinement
l'avenir
parce que je crois que l'année dernière ça avait été compliqué parce que on avait l'entraîneur mais quasiment en début de reprise de saison.
J'allais venir.
Voilà, il avait dû pas démissionner, mais qu'il avait une proposition plus intéressante à l'étranger. Du coup, on avait eu un changement d'entraîneur et on a vu que ça n'a pas forcément fonctionné.
Donc en gros, c'était Ethan Goldberg qui était donc l'entraîneur de l'année dernière, qui avait gagné la Coupe de France, qui avait permis au club de se qualifier pour la Coupe d'Europe, et Ethan Goldberg, qui était d'ailleurs nominé dans les Générations d'Or, qui est parti un peu plus tôt que prévu, donc un peu comme David Gauthier pour l'UFAB, et que du coup ils ont dû trouver un entraîneur qui connaissait quand même bien la Ligue Magnus, puisque c'était Mario Richer, qui malheureusement ça s'est mal passé, je crois que dans le groupe, et puis aussi avec la direction. Et puis ils se sont séparés d'un commun accord. Je sais pas.
C'était juste avant
la finale, c'est ça. Hein, décembre. Non, après.
Là, c'est avant la demi. Ou c'est les.
Ah, je
ou
sais.
Ou le quart. J'ai un trou. En tout cas, c'était avant un match de Coupe d'Europe, ça c'est sûr.
Ouais. Et du coup, ça avait fait quelques remous. Mais bon, en tout cas, il était parti. Et donc Jason O'Leary, qui l'avait remplacé au pied levé, puis qui avait fait un plutôt bon travail, puisqu'ils sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue Magnus. Donc, c'est bien, comme tu le dis, d'avoir son entraîneur tout de suite pour la saison prochaine. C'est toujours quelque chose de rassurant. Et puis, on souhaite que les Ducs reviennent un petit peu sur le devant de la scène sur l'année prochaine. Enfin, qu'ils y restent, en tout cas.
Oui, en tout cas, voilà. Il y aura moins de matchs, forcément, plus de Coupe d'Europe, mais il restera à la Coupe de France.
Ouais, carrément.
Aller à nouveau rechercher, puis bon, il y aura toujours cet objectif, quelle que soit la personne qui sera à la tête du club, d'aller chercher cette première Magnus.
Ouais, cette toute première Magnus qui va être hyper importante à aller chercher pour les Ducs d'Angers. Ce sera donc à suivre l'année prochaine. Fin de quart-temps pour le match entre l'UFAB et Roche-Vendée, 34-27 pour Angers. Ça se passe plutôt bien. Faustin.
Oui, ça se passe vraiment bien.
Et je trouve que c'est offensif comme.
Ouais, là, c'est vachement agressif.
C'est ouais, on est d'accord, c'est offensif comme ouais. carton, parce que là, on est à, oui, quasiment 30 points de chaque équipe.
34-27, ouais, on part sur des grosses bases. Hein.
Bah ouais, ouais, c'est des bases de 120 points, si ça ouais, se enfin, évidemment, ce sera pas comme ça, mais ça promet un match offensif, donc, pour Angers contre La Roche-sur-Yon. On va pouvoir commencer à parler de football. Maintenant, avec notamment un gros point sur le foot européen, mais on va commencer par chez nous avec la Ligue 1. La course à la Champions League a pris un tournant ce week-end avec le succès 2-1 de Lens contre Monaco, qui reste donc à 5 points du podium. Pour la cinquième place, les trois concurrents n'ont pas pu gagner ce week-end. Lille a fait match nul à Auxerre, 1-1. Lyon a perdu dans les tout derniers instants l'Olympico contre Marseille 2-1. Et Rennes s'est incliné à 11-10 contre Montpellier 1-0. Pour le maintien, Auxerre, Nantes, Brest et Strasbourg se tiennent en 4 points seulement, à 1 point seulement. Donc la lutte pour ne pas descendre avec 3 Ajaccio et Angers, donc elle s'annonce assez féroce. En Europe aussi, il y a du suspense, à commencer par la Première Ligue, où Arsenal voit son avance sur Manchester City fondre comme neige au soleil. Les deux clubs s'affrontent d'ailleurs demain soir dans un choc épique qui devrait rebattre les cartes pour la quête du titre. En Espagne, le FC Barcelone devrait notamment normalement retrouver le titre de champion d'Espagne 4 ans après le dernier glané. Les Catalans possèdent 9 points d'avance sur leur rival, le Real Madrid.
Le Real qui est en train de perdre actuellement 2-1.
Ah oui, d'ailleurs oui, parce qu'il joue en ce moment donc.
C'est la mi-temps. Ouais.
Il joue en ce moment en Liga, voilà, parce qu'il y a 3 championnats qui jouent, donc je crois.
Il y a Angleterre, ouais, Espagne, Pays-Bas, Suisse.
Ouais. Ouais, enfin, il y a parmi le Big Five, je crois. Du coup, il y en a 2 plus la coupe qui concerne l'Italie. Donc voilà, le Real Madrid qui évidemment normalement ne sera pas champion d'Espagne. Du côté de l'Allemagne, c'est très serré entre le Borussia Dortmund, leader depuis ce week-end, et le Bayern Munich. Les Munichois ont 1 point de retard sur leurs concurrents alors qu'il ne reste que 5 journées. Et enfin, en Italie, alors que le titre semble promis au Napoli, impressionnant cette saison, la course à la Ligue des Champions est plus que jamais disputée. Surtout que la Juventus est revenue dans la partie grâce au lever de sa sanction de 15 points qui leur permet de revenir sur le podium de Serie A. Les Turinois se sont intercalés entre la Lazio de Rome et le champion en titre, l'AC Milan.
Alors, c'est une levée définitive ou
je crois que
en attente de quand même de jugement.
Ouais, c'est provisoire. Ouais, en fait, c'est plus ouais, ils enlèvent la sanction pour l'instant.
C'est ça.
C'est un peu voilà, c'est pas encore très précis parce qu'ils peuvent les reperdre apparemment.
Oui, c'est ça ce que j'ai pu comprendre, c'est que oui, c'était vraiment voilà,
c'est pour provisoirement, ils les reprennent.
C'est pas tout à fait jugé ou c'est encore sous enquête, c'est voilà, c'est
ils reprennent leurs 15 points et c'est vrai que depuis qu'ils avaient eu cette décision, ils avaient enchaîné les victoires et ils étaient bien revenus dans la course à l'Europe. Et là, du coup, 15 points, bah, ils sont carrément en tout cas en bonne posture pour aller disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et puis, le football européen, c'est aussi évidemment les Coupes d'Europe. On connaît les 3 derniers carrés de la C1, de la C3 et de la C4. En Ligue des Champions, le Real jouera Manchester City, tandis qu'on aura droit à un derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter de l'autre côté. En Ligue Europa, la Juve défiera Séville et la S-Roma tentera de sortir le Bayer Leverkusen. Et enfin, en Ligue Europa Conférence, West Ham affrontera l'AZ Alkmaar et la Fiorentina devra se défaire du piège FC Bâle. Un piège dans lequel sont tombés les Niçois d'ailleurs de Didier Digard, défait à domicile en prolongation 2-1 en quart de finale jeudi soir. Donc il n'y a plus de club français à ce stade. C'est vrai que c'est quelque chose dont on est malheureusement habitué de pas trop avoir de demi-finale européenne, quelle que soit la Coupe d'Europe. En tout cas, ça nous arrive pas chaque année. À titre de comparaison, l'Italie cette année a 5 clubs dans les différentes demi-finales de Coupe d'Europe. Je me souviens, je sais pas si c'était il y a 2 ans maintenant, on avait fait une autre, enfin les clubs français avaient fait une saison assez catastrophique aussi. On en avait parlé et on pouvait l'expliquer notamment par ce Covid qui avait arrêté le championnat et qui avait envoyé notamment les mauvais clubs, on va dire, en Europe. Là, il n'y a pas d'excuse, on va dire. Il y a des clubs qui ont beaucoup déçu. Nice notamment, voilà, j'en ai parlé, qui avait toutes les cartes en main pour se qualifier. C'est un adversaire qui était quand même très jouable. Plus évidemment Rennes et Monaco qui ont choc, on peut le dire, qui ont complètement déçu et qui avaient notamment pareil aussi leur qualif entre leurs mains. Marseille, pareil, qui n'est pas sorti des poules de Ligue Europa, de Ligue des Champions, qui a terminé quatrième. Paris évidemment qui est sorti en huitième de finale. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a que Nantes qui a été vraiment le bon élève, on va dire, qui pour son niveau a été vraiment intéressant à voir jouer, qui a vraiment vécu un peu une épopée européenne. Mais les autres, c'est décevant et malheureusement, on est habitué.
C'est ça, parce que enfin, si on se passe juste hein, sur les stats au moment du tirage, voilà, on savait que oui, Nantes en cumulant la saison plus le les différentes coupes, ça pouvait être très compliqué. Ils tombent contre la Juve.
Ouais.
En plus, dans un match où on peut, il y a des décisions arbitrage sont un peu sévères. Notamment, je crois que le premier but c'était un penalty. Il y a toujours cette histoire de main ou pas main qui est très compliquée cette année, quelles que soient les coupes d'ailleurs et les clubs. Donc, au moins il y a une justice, c'est que c'est valable pour tout le monde.
Ouais.
Cette interprétation. Mais oui, Nice qui avait son destin en main quand même, voilà, parce que bon, mener quand tu mènes 90 minutes quasiment qu'ils mènent.
Bah oui, c'est ça.
Ils se font reprendre bêtement.
Bah déjà même à la liste, ils avaient mené par deux fois, je crois.
Je sais plus.
Je crois qu'il y avait eu
ça faisait 1-0, 1 partout, 2-1-2.
C'est ça. Ouais,
ça.
Mais voilà, après apparemment là dans les prolongations, puis bon, bah après
ouais,
ça se finit voilà sur le scénario le plus bête quoi, donc
ouais, bien sûr
c'est dommage, il y a du gâchis. Après j'ai envie de dire c'est un peu à l'image un peu de la saison quand même de Nice hein.
Ouais, qui est pas
forcément terrible.
Il y a, on y a cru à un moment donné, mais
interne et
externe,
enfin voilà. Pour les autres, Paris, on peut avoir des regrets hein, parce
ouais,
que puis finalement ce Bayern était peut-être prenable. Il y a ce premier match, c'est vrai qu'il y avait pas mal de blessés.
Ah, mais justement, ils ont perdu quoi.
Oui, non,
contre
mais
un Bayern prenable.
Donc
c'était décevant quand même comme performance.
Bah, sur le coup, c'était pas évident d'être sûr qu'ils étaient prenables, tu vois.
Ouais.
Et avec un peu de recul, tu te dis oui, que ça aurait pu être jouable.
Donc il y a forcément un peu de regret.
Il y a, je pense oui, du regret à Paris. Mais bon, le problème à Paris,
il n'est pas forcément le même que
les autres clubs. C'est pas forcément une question de jeu. Hein. Une question d'envie de certains joueurs.
Enfin, ouais. Et surtout, ça pose une vraie question toutes ces mauvaises performances françaises dont on est malheureusement un peu trop habitué. Même parfois on est résigné. On banalise un peu le fait que les Français font des performances assez honteuses en Europe. Est-ce que c'est un problème, c'est l'action qu'on peut poser, est-ce que c'est un problème vraiment français, mais en ce cas-là, est-ce que c'est vraiment explicable, parce que c'est quand même des clubs différents, qui ont des joueurs différents, qui ont des coachs différents, qui ont des enjeux, enfin des objectifs différents, et c'est difficile de vraiment associer tout le monde et mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y en a qui se débrouillent avec leurs moyens, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent faire beaucoup mieux. Je pense à Rennes et Monaco qui je pense
encore sont Rennes, les pour plus... moi c'est un accident, je pense.
Ouais, mais
parce que
ouais, mais contre
depuis tout le temps qu'il a joué différentes coupes d'Europe, c'est quand même un des clubs français
qui nous
a sauvé plus d'une fois notre place au niveau UEFA hein, pour le.
Je suis pas trop d'accord parce que l'année dernière ils sortent en huitième de Conference League contre Leicester. Sinon bah ils ont pas fait plus qu'un huitième de finale.
Ah non, par contre ils arrivent pas à passer l'étape au dessus.
Alors que
mais non, ils sont quand même réguliers. Je veux
ouais,
dire,
mais c'est pour moi c'est une équipe qui pourrait faire beaucoup mieux. Pour moi,
un peu plus de.
Ils ont des moyens.
Je pense qu'ils sont à leur niveau hélas, tu vois.
Ouais, mais ce qui est quand même décevant cette année, c'est qu'ils jouent contre une équipe ukrainienne qui n'a plus le championnat, qui joue en Pologne, qui a court de rythme, qui est dans un pays en guerre. Donc et Rennes, qui est quand même habitué, qui a un bon effectif, qui a des très bons espoirs français, n'arrive pas à les battre. Bref, mais en tout cas voilà, est-ce que ça peut s'expliquer par quelque chose? Moi, je sens qu'il y a clairement dans pas mal d'équipes un manque de motivation dans le sens où on sent que c'est pas que ça les fait chier, mais que c'est pas leur priorité.
Oui, et dans certains clubs, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Juste, ça fait de mal d'argent.
C'est ça.
Qui arrive, mais après, derrière, ça joue plus.
Et c'est un peu ce cercle vicieux où on veut absolument se qualifier pour l'Europe, on joue l'Europe, et puis une fois qu'on est en Europe, on arrête de jouer à fond cette compétition parce que on doit jouer le championnat pour se qualifier en Europe.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et en fait, c'est un cercle vicieux où en fait, on est nul à chaque fois et on envoie les mêmes clubs pas motivés à jouer en Europe. Donc,
hormis Nantes, voilà qui est.
Oui, non, c'était exceptionnel.
C'est voilà parce qu'il gagne la Coupe de France, mais des fois, est-ce qu'il ça vaut réellement le coup d'envoyer le vainqueur de la Coupe de France?
Ouais, parce que c'est un jour.
On sait jamais. C'est ce que peut se passer.
tu vois, parce que Nantes, par exemple, peut regagner la Coupe de France.
Regagner, c'est, ouais.
C'est
et même par exemple Toulouse.
C'est ce week-end.
Toulouse, on sait jamais.
Oui, non, mais voilà.
Ils
défendront pas cette année, mais par exemple, tu vois.
Je verrais très mal l'année prochaine, Toulouse.
C'est.
Même s'ils renforcent l'effectif.
Ce sera à voir, mais par exemple, Nantes peut à la fois gagner la Coupe de France et être qualifié pour la Ligue Europa et
se retrouver en Ligue 2.
Et se retrouver en Ligue 2. C'est complètement dingue, quoi. Et donc, voilà. Est-ce que c'est un problème français, peut-être, de mentalité? Je sais pas ce que t'en penses, Faustin.
Si ça fait des années que c'est comme ça, c'est clair que c'est en France qu'il y a un problème, quoi. Il y a un truc qui va pas dans la tête des joueurs, dans la manière dont c'est géré par les équipes. C'est qu'il y a un vrai problème quelque part.
Ouais, c'est clair.
Et bon, il y a le niveau du championnat.
Ouais, mais.
Le championnat est quand même faible comparé aux autres. Enfin, pourquoi on retrouve tout le temps autant de clubs anglais?
Ah oui,
bien placés. L'Espagne, c'est en train un petit peu de changer, mais pendant un moment, on se retrouvait avec, pareil, 3-4 clubs espagnols.
Ouais, je suis d'accord.
L'Allemagne.
C'est entre le bon et le moins
souvent
bon.
Les deux grosses têtes d'affiche qui sont là, mais qui allaient super loin.
Mais t'as quand même aussi des petits clubs qui peuvent faire des bons parcours.
Ouais.
Leipzig, demi-finale de champion en 2020. Francfort qui gagne la Ligue Europa l'année dernière.
Quand t'as un championnat qui est relevé, du coup, ça t'apprend à jouer, en fait.
Ah oui.
Toutes les semaines, ou un match, en fait, coup près, quasiment, quoi.
Ouais.
Et si on prend le cas de Paris, par exemple, ils ont joué combien de matchs coup près, vraiment, cette année?
Ouais, mais, ils en ont joué quand même en championnat. Ils ont perdu contre Rennes. Ils ont perdu en Coupe de France contre Marseille. Ils ont perdu aussi contre Lens. Tu vois, ça fait pas mal de. Ils ont pas tout gagné non plus, le PSG.
Ils sont pas sous pression tous les week-ends, tu vois.
Ouais. Ouais, ok, il y a moins de concurrence.
Il y a moins de concurrence.
C'est
mine de rien, ça telle concurrence, ça te pousse vers le haut.
Ouais, c'est vrai, parce que
Regarde Arsenal, par exemple, là, qui a enchaîné les saisons difficiles, mais qui arrivait toujours à se qualifier. On voit que, finalement, là, ça revient. Parce que le niveau du championnat anglais est tellement relevé maintenant que, ça les a poussés vers le haut. Il y a eu des managements différents. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait que.
Ouais.
Mais ne serait-ce que rien que le niveau, ça y joue, hein.
Ouais. Et puis donc pour apporter quelques précisions au niveau des enjeux qui vont concerner la Coupe d'Europe, parce que ça va être très intéressant. On en voit beaucoup parler d'ailleurs dans les médias, mais en tout cas pour refaire un petit point là-dessus, il y a un vrai enjeu au classement UEFA. La France est actuellement cinquième devant les Pays-Bas, mais ça pourrait changer puisque les clubs français donc sont éliminés, alors que du côté des Pays-Bas, on a encore du coup l'AZ Alkmaar qui pourrait jouer les troubles faits. Il faut savoir que donc, alors je vais pas rentrer dans les détails du calcul de points parce que c'est assez compliqué. En gros, c'est des points qui sont accordés sur des victoires à partir parfois des huitièmes, parfois des demi, etc. Bref, en tout cas, on a moins de deux points qui nous séparent des Pays-Bas. Et si l'AZ Alkmaar malheureusement gagne notamment contre West Ham, en tout cas se qualifie, eh bien les Pays-Bas nous passeraient devant. Et ça a une incidence. Pourquoi? Parce que lors de la saison 2024-2025 de Ligue des Champions, nous n'aurons pas 4 clubs, puisque le 5e pays au classement UEFA pourra faire représenter donc 4 clubs, 3 directement qualifiés pour la Ligue des Champions et 1 qui sera en barrage en qualification. Et donc c'est un vrai enjeu. Et déjà, moi je trouve ça intéressant qu'on ait potentiellement en tout cas 4 clubs en Ligue des Champions, même si ce sera un format assez nouveau et assez compliqué à lire. Peut-être qu'on en fera une chronique un jour.
La réforme.
Parce qu'il y a une première réforme et après apparemment il y a une deuxième réforme. Donc ça va être assez compliqué. En tout cas, voilà. Mais ça a une vraie incidence en tout cas pour le football français. Donc on aura forcément un œil sur cette confrontation entre West Ham et la ZAC Mar. Mais d'un autre côté, voilà, si on perd entre guillemets, si on perd cette cinquième place, quelque part on l'aura mérité.
Ce sera toujours plus délicat d'aller se qualifier dans les tours de... précédents. Enfin, on voit.
Voilà. En tout cas, on aura le même. C'est ça. On aura le même nombre de qualifiés.
Oui, mais on aura galéré.
Mais malheureusement, on aurait pu en avoir plus.
C'est ça.
Ouais. C'est toujours quelque chose de décevant. En tout cas, voilà, on va refermer cette page.
Si, je sais pas si t'as vu, il y a une petite news qui est sortie aujourd'hui.
Ouais, dis-moi.
C'est qu'ils voudraient exporter la Ligue des champions à l'international.
Ouais. Franchement.
Mais après 2024, je crois, dans les projets, ce serait d'aller jouer aux États-Unis.
Non, mais.
Ça va être sympa, les matchs à 4 heures du matin.
Non, mais chaque émission, j'ai l'impression qu'on sort une info encore plus folle de la FIFA ou l'UEFA qui se surpasse pour nous créer des trucs complètement fous. Si Max était là, il pèterait un câble.
Non, mais enfin, c'est. Je vois pas l'intérêt, déjà, que, enfin, pour les, le trophée des champions, je vois pas l'intérêt d'aller jouer.
Ah oui, déjà, oui.
Bien sûr, faire la promotion de la Ligue 1 pour avoir de l'argent, mais. Regarde, ça fait des années que maintenant plus personne ne la suit, cette compétition, parce que c'est dans des pays, ça coûte super cher d'y aller, ou c'est des horaires inaccessibles.
C'est pas, déjà, enfin, voilà, c'est pas très écologique, en soi.
En plus, oui.
C'est pour rien. Et ils ont carrément, je crois qu'ils avaient fait un truc pour le prochain, donc ils vont aller en Thaïlande, déjà. Et ils ont créé un espèce de mouvement, on va dire, pour l'écologie, en lien avec le trophée champion, alors qu'ils vont faire, je sais pas combien de, voilà, je pense 20 heures d'avion.
Ils vont tous y aller en train.
Ça va être super. Bref, en tout cas, voilà, vive le football moderne. C'est vraiment sympa. Ouais. En tout cas, voilà. Donc, on suivra tous ces dossiers. On fera un point, évidemment, sur les différents championnats, européens, puisqu'il y a pas mal de suspense, comme on l'a dit, avec des équipes intéressantes, comme Arsenal, comme le Napoli. Donc, on aura l'occasion de peut-être faire des émissions un peu là-dessus, effectivement. Donc, le Real qui perd 3-1, contre Gérone. Mais bon, voilà, effectivement, à la fois la deuxième place est assurée et à la fois, la première place est inatteignable pour le Real Madrid. Au niveau du basket, Faustin, 47-46.
Ouais.
Les, je sais pas comment on dit, les Rochesses.
Non, pas les Vendéennes.
Non, c'est le département, oui, ça fait beaucoup de monde. Les Rochesses, on dit?
Ouais, peut-être
avec Roche. Ah, les Lyonnaises, puisque c'est la Roche-sur-Yon. Ouais, donc les Lyonnaises, à ne pas confondre avec les Lyonnaises, donc les Lyonnaises qui sont revenues dans le match et il y a plus que un point d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, attention pour l'UFAB. Je disais basket, Faustin. Bon, on a de la grosse actu en local, mais on a aussi de la grosse actu sur le volet. National, européen et surtout américain. On commence par quoi ?
Ben on commence par le championnat français quand même, parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de matchs pour cause de Coupe de France, dont je parlerai après, c'était l'occasion de jouer certains matchs qui étaient reportés et on a eu une grosse surprise avec la défaite de Monaco 98-89 contre Strasbourg. Mais donc ils se sont très très bien rattrapés ensuite, car samedi avait lieu la finale de Coupe de France opposant donc Monaco à l'ASVEL, comme la finale de Betclic Elite de la saison dernière finalement. Et contrairement à la finale de la saison dernière, c'est Monaco qui finit champion de France en s'imposant facilement au terme d'un match dominé notamment par le meneur monégasque Elie Okobo, 90-70, donc avec à la fin du temps réglementaire, avec notamment un 33-15 pour Monaco dans le premier quart-temps.
Très bien. On passe à la Euroleague.
Monaco qui est en train de jouer d'ailleurs en Euroleague.
Oui, bah justement, bah Faustin, ouais. Il va en parler.
Alors, Euroleague, c'est les débuts des quarts de finale. Et Monaco qui va donc jouer son premier match contre Tel Aviv. Voilà.
18-22 dans le deuxième quart.
Très bien, bah merci Cédric pour l'info. Donc voilà, on espère que Monaco va représenter le championnat français sur la scène européenne. On va attaquer le gros dossier, hein, évidemment, de ton propos. Ça va être donc la NBA avec les playoffs. Est-ce qu'il y a déjà les qualifiés ?
Et oui, et c'est une très belle transition, car le premier qualifié est déjà connu pour les demi-finales de conférence, et c'est Philadelphie qui sont les seuls de cette saison à avoir fait un swipe dès le premier tour. C'était contre les Nets, ils ne leur ont laissé aucune chance.
Tu vas y arriver, t'inquiète pas.
Voilà, donc c'est le sweep qui va avoir c'est le seul sweep donc je dirais, voilà, qui va avoir lieu c'est pour ce premier tour en tout cas car les Wolves ont évité ce sweep en s'imposant contre Denver, notamment grâce à un gros Anthony Edwards qui a ensuite dit qu'il ne voulait jamais qu'on puisse dire qu'il s'est fait sweep de sa carrière. Ah. Donc il a pris les choses en main et s'est démené pour leader son équipe dans ce match 4. Ils peuvent cependant sortir des playoffs dès ce soir car le Game 5 se déroule à Denver. C'est exactement la même situation pour les Hawks qui sont menés 3-1 et jouent ce soir à Boston. À mon avis, ça risque d'être une simple formalité pour Boston de gagner ce dernier match. C'est aussi la même situation pour les Clippers qui jouent ce soir à Phoenix. Et avec l'absence de Kawhi Leonard, qui s'est donc blessé durant le match 3, ça risque d'être très compliqué malgré la très grande forme actuelle de Russell Westbrook qui est ressurgi après une saison compliquée. On a encore, oui. J'ai encore beaucoup de matchs à parler,
vas-y.
Notamment avec les deux gros matchs qu'on a eu hier soir, en commençant par Miami contre les Bucks, et on a assisté à l'une des plus grosses performances des playoffs de tous les temps à mon avis, avec les 56 points de Jimmy Butler.
Ah, oui.
C'est le quatrième plus gros scoring de tous les temps en playoff. Il a mis toute son équipe dans son sac à dos pour mener à la victoire son équipe. Il a notamment inscrit 21 points dans le dernier carton qui était extrêmement clutch et qui a permis donc à son équipe de mener 3-1 contre les Bucks, sachant que Miami a fini 8e et les Bucks ont fini 1er. Donc ça peut être serait la quatrième fois de l'histoire une équipe finissant 8e gagne contre le premier au premier tour des playoffs.
Ah, ce serait intéressant.
Ouais, c'est à voir.
D'autres matchs, d'autres confrontations intéressantes.
Hier soir, c'était les Lakers contre les Grizzlies. Et avant d'en parler, je dois mettre un peu de contexte. Dillon Brooks, arrière des Grizzlies, n'a pas arrêté de trash talk LeBron James pendant les deux premiers matchs, que ce soit sur le terrain ou dans les interviews. Il a notamment dit : "Je m'en fous de LeBron, il est trop vieux."
D'accord.
Bon.
Un manque de respect. Donc, voilà. On peut appeler ça comme ça.
Je crois que c'est le bon terme. Depuis, Dillon Brooks a d'abord été exclu dans le Game 3 pour avoir mis un coup dans les testicules de LeBron James.
Ah oui, carrément.
Ah oui, c'était.
La bataille s'est faite aussi sur le terrain.
Voilà, mais bon, une exclusion assez tôt dans le match qui a donc coûté le match à son équipe. Puis c'est ensuite fait complètement laver, j'ai envie de dire, par LeBron James dans le Game 4. Il a ensuite décliné toutes les interviews qui lui étaient proposées. Ce joueur maintenant n'assume plus ses propos. Il a peur des médias.
Il se cache un petit peu.
Voilà. Il s'est fait corriger.
Ça fait sourire, effectivement. Je vois qu'il sourit. Ça fait sourire ces histoires comme ça. On va dire que c'est le karma.
Voilà, c'est ça. C'est ce joueur-là qui aime bien un trash talk tout le monde et qui derrière.
Un trash talk pour ceux qui sont pas très coutumiers du basket, c'est chambré en gros.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et c'est un. Je connais pas le gars, mais c'est un personnage un peu.
Ouais, c'est ça.
Pas très apprécié ou.
Non, il est pas très apprécié. Tu vois.
Un clivant. Il est clivant, quoi.
Ouais, voilà. C'est là, il commence un peu à éteindre l'image des Grizzlies. Il commence à être une franchise pas du tout appréciée.
Pourtant, c'est Jokic ou
Non, c'est Ja Morant qui joue aux Grizzlies.
Tu vois,
déjà dans la saison, il avait fait un truc un peu similaire avec en gros toute l'équipe des Warriors. C'est Stephen Curry et tout ça. Pareil, il s'était fait après défoncer quand il y a les matchs.
Donc voilà, il perd rapidement.
Voilà, et puis là, il a bien réveillé LeBron James qui sort des très grosses perfs. Là. Hier soir, du coup, il met un tir à 5 secondes de la fin, un lay-up où il passe au-dessus de deux joueurs, dont Jaren Jackson, meilleur défenseur de l'année.
Ouais, quand même.
Et qui les envoie en prolongation pour ensuite donc, gagner le match 3-1 dans la série pour les Lakers. Game 5 aura lieu à Memphis.
Ça marche. d'autres Rostaus et
pourquoi pas. On a ensuite voilà, il reste donc deux séries dont je n'ai pas parlé. D'abord les Knicks contre les Cavaliers. J'avoue que cette série c'est la série qui m'intéresse le moins des playoffs, mais de ce que je vois, c'est quand même les Knicks qui dominent assez largement la série. Ils mènent donc 3-1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Knicks de retour en playoffs et ils ont l'air de gérer.
Ok.
Et enfin la dernière, c'est celle opposant les Kings aux Warriors, et cette série porte toutes ses promesses car il y a 2-2 et chaque équipe a remporté ses matchs à domicile, logique, comme les Warriors n'ont gagné cette saison que 7 matchs à l'extérieur, c'est très peu. Je crois que c'est un record NBA d'avoir gagné.
Je crois que j'avais la stat, Stephen Curry n'avait jamais été auparavant mené 2-0 dans une série de playoff.
Ah, je l'ai pas vu celle-là.
Et donc voilà, c'est une première parce qu'ils ont donc été menés 2-0.
Oui.
Et ça n'était jamais arrivé à Stephen Curry en carrière. Donc, alors qu'il est quand même, voilà, il a quelques années d'expérience, quand même. Voilà.
Donc. Pas de double champion, tout ça.
C'est ça. Donc voilà. Et puis, on verra si les Warriors sont capables de gagner, tout simplement. Pareil, c'est le premier contre le huitième ou c'est, non, c'est plus serré,
C'est quoi?
C'est le premier contre le huitième ou c'est plus serré
au... Non, là, c'est, il me semble, c'est, attends, que j'affichis, c'est là. Donc, c'est, 3 contre 5.
OK.
Contre 6.
Ça va.
3 contre 6.
Très bien, bah merci pour ce gros point NBA, c'était voilà important de revenir un peu là-dessus. La semaine prochaine, on aura déjà, je pense, les affiches des demi-finales.
Ouais, on aura beaucoup, il y aura sûrement peut-être même avec un peu de chance des demi-finales qui vont commencer.
Ouais, donc évidemment, on suivra ça. Sans transition, on va parler de handball. Il y a un gros suspense en tête de la Leaky Moly Star League. Le PSG, le HBC Nantes et le Montpellier Handball sont au coude à coude pour décrocher le titre de champion de France. Ce week-end, Paris est passé devant Montpellier en infligeant une sévère claque aux Héraultais. 38-23. Revanche d'une affiche qui avait vu les hommes de Patrice Canaillé étrier les joueurs de la capitale en Coupe de France. Toujours en lice pour la Ligue européenne, les Montpelliérains sont troisième actuellement, mais seulement distancés d'une unité par le dauphin Nantes et de deux par le leader parisien. À noter qu'il y aura un choc décisif pour le titre entre Nantais et Parisiens lors de l'avant-dernière journée. Voilà une fin de championnat qui promet. Et puis, on va terminer par un mot d'athlétisme avec une nouvelle qui est apparue ces dernières semaines. Teddy Tamgo, triple sauteur français et champion du monde en 2013, a décidé de sortir de sa retraite 3 ans et demi après avoir quitté les terrains d'athlétisme. Devenu coach entre-temps, le tricolore a mûrement réfléchi sa décision et se donne une mission principale, décrocher une médaille dans la seule compétition qui lui a échappé tout au long de sa carrière, les Jeux Olympiques. Pour cela, Tamgo va devoir redoubler d'efforts pour obtenir les minima dans un premier temps et puis jouer les premiers rôles lors de la compétition dans un second. Si certains experts sont un peu sceptiques pour aller jusqu'à une médaille à Paris dans 15 mois, l'athlète de 33 ans va se donner les moyens de réaliser un comeback impensable. Cédric, t'en penses quoi, toi, de ce retour de Teddy Tamgo? C'est un athlète qui nous a un peu fait rêver quand il avait fait notamment son titre de champion du monde où il avait dépassé 18 mètres, c'était assez incroyable. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est un pari un peu risqué.
Ouais.
C'est toujours compliqué de sortir de sa retraite. Bon, on se doute que de toute façon derrière, il s'entraînait encore. Hein. Tu t'arrêtes pas non plus du jour au lendemain. Donc pourquoi pas. Après, faut qu'il soit la même enseigne que tout le monde. Voilà, qui passe. Alors, je sais pas si c'est via les championnats de France et après avoir les minima pour se qualifier. Mais faut voir si effectivement il n'y a pas encore de relève. Ça peut être une bonne occasion d'aller chercher une médaille en athlétisme, qui devient un peu trop rare, mais
À suivre. Est-ce qu'il y a, par curiosité, je vous prends dépourvu, mais est-ce qu'il y a des anciens athlètes, tous sports confondus, si vous devez choisir un qui pourrait sortir de sa retraite comme ça, pour reprendre du service, est-ce qu'il y en a un en tête? J'ai l'impression que...
Tom
Brady.
Tom Brady, encore.
Ah, Brady,
ah,
ouais,
aussi, celui-là.
Ah, techniquement, ça y est, c'est sa première retraite officielle.
Attends, non, mais il en a pris combien avant?
Ben non, après il est parti en vacances en fait au final.
Ah oui, d'accord, oui.
Okay. Il a dit qu'il arrêtait, mais après il est revenu, donc c'est des vacances.
C'est ça, faut qu'il précise à chaque fois que c'est juste il arrête l'entraînement pour
c'est
un
ça,
temps.
Ouais. Puis, non, à la rigueur, je crois.
Sinon.
C'est question piège, ouais. Hein, excusez-moi, mais.
Ah, je serais curieux de te voir un Usain Bolt.
Ouais, c'est vrai.
S'il revenait, tu vois, avec. Mais un matériel identique, tu vois, genre avec le meilleur performant actuellement.
Ouais, ouais.
Mondial ou de la saison, tu vois. Mais bon, faudrait qu'il soit vraiment, tu vois, même condition physique, enfin.
Ouais, ouais.
Histoire de voir si, en fait, c'était réellement la technologie qui jouait ou si c'est juste la
tête,
son physique,
quoi.
Et c'est sa façon de s'entraîner, tout ça, enfin.
Moi, je pense à pourquoi pas Martin Fourcade. Je trouve qu'il est parti un peu comme une fleur et qu'on s'en est pas forcément rendu compte.
Ouais, mais la perche, pareil, c'est l'évolution. Fourcade, non, oui.
Biathlon.
Oui.
Le biathlon. C'est pas pareil.
Ah, tu peux faire du biathlon avec une perche. Hein.
Ah, ouais, ça reste compliqué.
Ça va être plus dur à viser,
oui,
voilà.
Justement, peut-être que tu peux viser.
C'est, ouais.
Bref, oui, non, ouais, pourquoi pas Martin Fourcade.
Donc, Fourcade, je pense que tu le remets avec quelques heures d'entraînement, quelques mois d'entraînement, je pense qu'il pourrait faire, oui, effectivement, un ou deux coups sur une saison, quoi.
Ouais. Après, voilà, je pense qu'il faut prendre des joueurs qui ont pris leur retraite un peu tôt. J'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais donc, voilà, c'était assez intéressant. Et donc, Teddy Tamgho, je pense que ça va être intéressant à suivre. Parce que moi, je me souviens avoir vibré vraiment sur son triple saut. Moi, j'aime bien le triple saut. Je trouve ça intéressant.
Après, et, c'est surtout
sur
ce que le corps va tenir,
fait, c'est... Ouais, par contre, c'est ça.
C'est ça, parce
et
que...
Et surtout, ce que disaient notamment certains journalistes, c'est que aujourd'hui, on doit taper dans l'excellence, on doit taper dans les 18 mètres, justement. C'est pas forcément le même niveau qu'à son époque. Et là, il va falloir qu'il fasse peut-être même mieux que ce qu'il faisait à l'époque. Sinon, pour terminer l'émission, un petit point sur Angers. L'UFAB qui joue actuellement donc contre La Roche-sur-Yon à Jambouin, 53-49, c'est la mi-temps. Faustin, tu confirmes, c'est la mi-temps?
Oui, c'est la mi-temps.
Entre donc Angers et Roche-Vendée, donc voilà les Angevines qui sont très très bien partis pour aller en play-off. Mais bon, rien n'est fait évidemment parce qu'il y a que oui, en fait il y a que 4 points d'écart. Donc on suivra ça. Donc pour rappel, il y aura un match hyper important aussi demain à 20h à la Meilleraie, donc entre Cholet et Vauclavec, le club polonais, pour la finale de la Coupe d'Europe de la FIBA, la C4. Donc voilà, peut-être un trophée européen pour Cholet, donc ça va être hyper intéressant. Et puis voilà, sinon ça va être aussi le week-end l'occasion d'avoir cette coupe finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Rapidement peut-être messieurs, pronostic.
Bon allez, Nantes.
Nantes
qui conserve son titre.
OK.
De Guiblas.
Ça marche. Ah oui, c'est vrai qu'il avait été buteur en demi-finale. Cédric, toi t'as un prono?
Faut que le match puisse se jouer.
Pourquoi?
Il y a quand même des menaces de coupure d'électricité.
Ah bah oui, c'est vrai.
Faut pas oublier ça.
C'est l'actualité dans le pays, effectivement.
Je sais pas. Peut-être une surprise quand même, ouais. Toulouse.
Moi, j'aimerais bien.
Nantes, ils ont quand même le championnat. Il y a Cambouaille qui les a un peu saqués. Donc, je me dis, est-ce que les joueurs vont avoir réellement l'envie d'aller chercher un second titre?
Bah écoute, on suivra ça. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi prochain, 20h-21h sur Radio G. Et puis on va vous laisser avec la suite des programmes et surtout vous souhaiter une bonne soirée.